France Musique. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
Bonjour à tous, voici le quatrième volet de notre série estivale « Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns » qui nous a permis d'évoquer la virtuosité, l'orientalisme et, samedi dernier, l'opéra « Samson et Dalila » qui fut et qui reste son plus grand succès lyrique. Un arbre magnifique, mais qui cache une forêt d'autres arbres, peut-être pas aussi majestueux, mais qui sont tout à fait dignes d'intérêt et méritent la petite promenade que je propose aujourd'hui. En commençant par un ouvrage déjà évoqué lors du deuxième épisode sur l'orientalisme, il s'agit de l'opéra comique La Princesse Jaune, dont voici l'ouverture avec l'Orchestre National Royal d'Écosse, dirigé par Neme Yervi.
Thank you.
En 1895, Camille Saint-Saëns s'était rendu en visite à Saïgon, dans la colonie française de Cochinchine, mais il n'avait encore jamais quitté l'Europe lorsqu'il écrivait en 1872 « La princesse jaune » dont l'ouverture était ici jouée par l'Orchestre national royal d'Écosse, dirigé par Nemeu Yervy. En cette seconde moitié du XIXe siècle, le Saint Graal pour un compositeur français, c'est l'opéra. Une création à l'Opéra de Paris et pourquoi pas un succès offrant ainsi la gloire, comme pour Charles Gounod, que Camille Saint-Saëns admire. Gounod lui a toujours apporté son soutien. Seulement, la grande porte d'entrée de l'Opéra de Paris passe souvent par Rome. Je veux dire par l'obtention de la première place au concours musical du Prix de Rome. Prix obtenu par exemple par Halévy, par Berlioz, par Ambroise Thomas, par Gounod, Bizet ou encore par Jules Massenet, le grand concurrent lyrique de Saint-Saëns. Et malgré ses grandes aptitudes académiques et malgré ses deux tentatives en 1852 et 1864, Saint-Saëns échoue au concours de Rome, fermant ainsi ses fameuses portes de l'Opéra de Paris. Son tout premier drame lyrique, Saint-Saëns l'écrit au moment de son second échec au Prix de Rome en 1864-65 sur un livret du fameux duo Jules Barbier, Michel Carré. Voilà deux librettistes qui ont notamment écrit le Faust de Gounod. Et pour Saint-Saëns, ils écrivent le timbre d'argent. Alors le timbre, il s'agit d'une clochette, magique qu'un diabolique médecin apporte au malheureux héros, Conrad. Il agite cette clochette, ce timbre d'argent, qui lui apporte certes richesse et amour, mais aussi d'effroyables catastrophes. Voici deux extraits de ce timbre d'argent de Saint-Saëns, qui doit attendre 13 années, 1877, pour sa création à l'Opéra de Paris. Deux airs relativement sortis de l'oubli, l'air du bonheur chanté par Hélène, l'héroïne qui épousera finalement Conrad, et tout d'abord cette chanson napolitaine, interprétée par le baryton Michel Danse, qui incarne le diabolique docteur Spiridion sous la direction de Georges Tsipine.
De Naples à Florence et de Parme à Vérone, chacun connaît Caméléon. Et ces chansons-là, les vers que j'improvise au son de ma guitare, je ne suis point avare, moi je fais fi de l'or. Et je ne demande à ce que j'ai guéri que sourire et moi encore. Et je ne demande à ce que j'ai guéri que sourire. Et moi encore, et moi encore, et moi encore. C'est en applaudissant mes chansons qu'on me paie. Je chante nuit et jour le bon vin et l'amour. Je chante nuit et jour le bon vin et l'amour. Ma voix est vive, tendre et plaintive. Parlez, 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 il faut me dire si vous voulez pleurer ou rire. Parlez, de Naples à Florence et de Parme à Vérone, chacun connaît Caméléon. Et ses chansons d'âme, les vers que j'improvise au son de ma guitare, je ne suis point avare, moi je fais fi de l'or. Et je ne demande à ce que j'ai guéri que sourire et moi encore. Et je ne demande à ce que j'ai guéri que sourire et moi encore. Et moi encore, et moi encore. C'est en applaudissant mes chansons qu'on me paie. Thank you.
C'est un nain grotesque qui a voulu que sa médiocrité s'étalât au grand jour. J'ai déjà eu l'occasion, lors de la première émission de cette série, de vous lire cette critique haineuse de l'écrivain Octave Mirbeau après la création de l'opéra Le Timbre d'Argent de Camille Saint-Saëns, dont nous écoutions un extrait avec la soprano Hélène Guilmette et l'orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth, extrait d'un enregistrement intégral de ce Timbre d'Argent réalisé en 2017 à la Philharmonie de Paris pour la Fondation Bruzzani. Cet ouvrage apparaissait comme une œuvre révolutionnaire et prodigieusement avancée, écrira Saint-Saëns au début de l'année 1914. Alors 1877, c'est l'année de deux créations pour Saint-Saëns. Le Timbre d'Argent, qui est créé en fin de cette année à l'Opéra de Paris, et puis Samson et Dalila, créé à Weimar en 1877, nous l'évoquions la semaine dernière. À cette époque, Saint-Saëns côtoie et admire profondément Richard Wagner. Et même si, pour des raisons politiques, il va plus tard tirer à boulet rouge sur le wagnérisme, sa proximité avec Wagner, dès les années 60-70, va curieusement contribuer à classer Saint-Saëns parmi les modernes, voire les iconoclastes. Alors malgré sa reprise à la Monnaie de Bruxelles en 1879, ce Timbre d'Argent sera un échec public. Et cette année-là, 79, Saint-Saëns va tout miser sur Étienne Marcel, un nouvel opéra. Étienne Marcel, c'est le fameux prévôt des marchands de Paris au XIVe siècle, considéré comme le premier maire de la capitale. Une statue équestre s'impose encore aujourd'hui à côté de l'hôtel de ville. Et c'est Louis Gallet, son librettiste pour La Princesse Jaune, que Saint-Saëns sollicite pour Étienne Marcel. Les portes de l'opéra de Paris s'étant refermées depuis l'échec du Timbre d'Argent, Saint-Saëns reçoit une commande d'un de ses amis, Monsieur Aimé Gros, directeur de l'opéra de Lyon. Accompagné par l'orchestre de la radio de Munich, dirigé par Hervé Niquet, voici Véronique Gens, que nous allons écouter dans un air de Béatrix, la fille d'Étienne Marcel. Et selon Jacques Bonnor, biographe de Camille Saint-Saëns, chez Actes Sud Classica, cet air, c'est incontestablement l'un des plus beaux airs d'opéra français jamais composés.
Mon deuil.
C'est au deuxième acte de l'opéra Étienne Marcel de Camille Saint-Saëns que l'on peut entendre cette aire de Béatrix, chantée en 2017 par Véronique Gens, avec l'orchestre de la radio de Munich dirigé par Hervé Niquet, pour le label Alpha, là encore avec le soutien de la Fondation Bruzzané pour la musique romantique française. Étienne Marcel est donc créé en 1879 au Grand Théâtre de Lyon, repris timidement à Paris, 5 ans plus tard, au modeste théâtre du Château d'Eau. Il fait une apparition en 1918 à Monte-Carlo, mais son existence est bien fragile, et ce malgré de très belles pages, comme l'air de Béatrix qu'on vient d'entendre, ou comme cette valse du troisième acte que voici sur France Musique.
Thank you.
Si nous l'en croyons, Saint-Saëns déteste écrire de la musique de ballet. Or, un mauvais, ou plutôt un bon génie, a voulu qu'il y excella. Chaque fois qu'il fait la concession d'un ballet, c'est un événement de musique exquis, un délice de fantaisie et de grâce. Voilà ce qu'écrivait André Messager en 1907, songeant peut-être à cette valse du troisième acte de l'opéra Étienne Marcel de Camille Saint-Saëns. L'orchestre Victoria était dirigé par Guillaume Tournière.
C'est l'été sur France Musique. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
Après le XIVe siècle d'Étienne Marcel, Camille Saint-Saëns va encore se tourner vers l'opéra historique avec en 1883 Henri VIII, le célèbre roi anglais, mangeur de femmes, sur un livret de messieurs Léonce Détroyat et Armand Sylvestre. Et oui, ils s'y sont mis à deux pour écrire ce livret d'une affligeante médiocrité. Certains ont pu expliquer le manque de succès de Camille Saint-Saëns à l'opéra par la faiblesse de ses livrets, expliquant que l'orgueilleux Saint-Saëns pouvait s'imaginer que la musique suffirait à elle seule. Seulement lorsque Henri VIII chante, je cite, « Quel empire reste au cœur où l'amour met son pied vainqueur ?» Eh bien, on est loin d'un grand livret, on lève plutôt les yeux au ciel, mais essayons de passer outre en écoutant de nouveau Michel Danse dans cette scène de la solitude du pouvoir avec Henri VIII qui rappelle le Philippe II de Don Carlos de Verdi quand il chante « Elle ne m'aime pas ».
Quel empire reste au cœur.
cœur où l'amour met son pied vainqueur. Ah, c'est la torture suprême. Elle veut et puis ne veut plus. Elle me cherche et puis m'évite. Fait-il mes désirs superflus? Ah, c'est la torture suprême. Espérer et craindre à la fois, et vivre exilé de soi-même, ayant des caprices pour moi. Elle me cherche et puis m'évite, elle me veut et puis ne veut plus. C'est la torture suprême. Qui donc commande quand il est? Quel empire reste au cœur où l'amour met son pied vainqueur? Qui donc commande quand il aime? Et quel empire reste au cœur où l'amour met son pied?
Michel Danse chantait le rôle de Henri VIII dans cette partition de Camille Saint-Saëns avec l'orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par Pierre Dervaux. C'était en 1966, c'est-à-dire 83 ans après la création de ce Henri VIII, de cette partition par ce même orchestre de l'Opéra de Paris. Voilà un tigre assoiffé de sang, mais qui chante des cantilènes trop sucrées, propres à attendrir un enfant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le cinglant critique Claude Debussy. Malgré tout, Henri VIII va connaître un certain succès à sa création grâce au soutien du directeur de l'Opéra de Paris, Auguste Vaucorbeil. On va même le chanter à Francfort, à Milan et bien sûr à Londres, où le public anglais apprécie de retrouver les personnages de son histoire, comme Henri VIII ou comme la pauvre Anne Boleyn, ici incarnée par Elina Garanča. Anne Boleyn qui rêve tout haut « Reine, je serai reine ».
Et pour enlever une couronne sur
L'orchestre de la communauté de Valence était dirigé par Roberto Abbado dans un extrait du deuxième acte de Henri VIII de Camille Saint-Saëns, et c'est Elina Garancha que vous entendiez sur France Musique dans notre carnaval de Monsieur Saint-Saëns, elle qui chantait le rôle d'Anne Boleyn. Je citais tout à l'heure André Messager faisant l'éloge de la musique de ballet de Camille Saint-Saëns, citation trouvée dans le livre Saint-Saëns, un esprit libre, livre illustré magnifique publié par la Bibliothèque nationale de France et l'Opéra national de Paris pour une exposition qui se tient jusqu'au 10 octobre prochain à l'Opéra. Dans un article sur la danse, Benoît Caïmal cite également Saint-Saëns. Rendez-nous les beaux ballets d'autrefois, donnez une grande importance à la pantomime et à la symphonie, soyez savoureux, soyez sublime, mais ne proscrivez pas la danse, cet art délicieux. Eh bien, comme il se doit pour une partition créée à la grande boutique, comme on appelait jadis l'Opéra de Paris, Camille Saint-Saëns inclut dans Henri VIII des scènes de ballet, comme en témoigne tour à tour la danse de la gypsy et la fête du houblon.
Thank you.
C'est à Melbourne, en Australie, que Guillaume Tournière avait dirigé en 2010 l'orchestre Victoria pour un disque intitulé « Élan » sur les musiques de ballet de Camille Saint-Saëns, comme ses danses de Henri VIII, Danse de la Gypsy et La Fête du Houblon. Camille Saint-Saëns n'hésite pas à se rendre en Angleterre, à la British Library, pour consulter des partitions du XVIe siècle afin de lui donner l'inspiration dans cette partition, en particulier au quatrième acte de Henri VIII, où l'on entend Catherine d'Aragon songeant à son Espagne chérie. Catherine d'Aragon, ici chantée par Karine Dehaye.
Si fut-il
L'orchestre Victor Hugo était dirigé par Jean-François Verdier, accompagnant la voix de Karine Dehaie dans cet air de Catherine d'Aragon au quatrième acte de l'opéra Henri VIII de Camille Saint-Saëns.
France Musique, le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
En 1887, 8 ans après la création à Lyon de leur Étienne Marcel, Camille Saint-Saëns et le librettiste Louis Gallet vont de nouveau travailler ensemble, cette fois-ci pour l'opéra comique, avec Proserpine, d'après une pièce de théâtre d'Auguste Vacquery. Saint-Saëns avait convaincu Vacquery lors d'un dîner chez leur ami commun, un certain Victor Hugo. Alors, il ne s'agit pas de la déesse romaine Proserpine, mais d'une courtisane florentine de la Renaissance. Et tout comme il était allé à Londres pour Henri VIII, le grand voyageur Saint-Saëns s'était rendu dans les palais florentins pendant l'été 1886 pour s'imprégner de leur atmosphère avant de composer cette Proserpine, Proserpine femme libre, lointaine parente de Carmen. Elle fut jadis courtisée par le fringant Sabatino, chanté évidemment par un ténor. Seulement Sabatino décide d'épouser la virginale Angiola, avec un prénom angélique. C'en est trop pour Proserpine qui tente de la poignarder avant de mourir. Elle est tuée par Sabatino dans une première version. Elle se donne elle-même la mort dans une seconde version. Voici cette scène finale de Proserpine avec Véronique Gens dans le rôle titre, Marie-Adeline Henry en Angiola et Frédéric Antoun en Sabatino, l'orchestre de la radio de Munich dirigé par Ulf Schirmer.
Qu'ordonnes-tu de moi ? Prononce mon
Quel danger donc ?
Mais tout va bien. vous dire en montant toute l'histoire.
Oui, nous avons cet instant à nous tout seuls. C'est vous, comme vous êtes belle.
Tu l'as donc.
Vous anges aimés.
Pitié.
Suprême.
Il me reste deux jours pour dire non, je t'aime.
Ô divin ravissement,
seul,
le paradis est sur la terre.
Le ténor Frédéric Antoun interprétait Sabatino, Marie-Adeline Henry était Angiola et Véronique Gens était Proserpine dans cette Proserpine de Saint-Saëns, avec ici l'orchestre de la radio de Munich, dirigé par Ulf Schirmer. Camille Saint-Saëns est un wagnérien, partisan de la mélodie continue. Camille Saint-Saëns est un symphoniste donnant trop d'importance à l'orchestre. Voilà les principaux griefs qui seront faits au compositeur de Proserpine lors de la création de cet opéra en 1887 à Paris au Palais Garnier. Un critique écrit même Camille Saint-Science pour dénoncer les soi-disant complications musicales de sa partition. Saint-Saëns à cette époque avait publiquement critiqué le wagnérisme, l'idolâtrie wagnérienne, ce qui avait quelque peu piqué le public allemand, mais à Paris, on le taxe quand même de wagnérien. Saint-Saëns écrit en réponse, je cite, « Le drame s'achemine vers une synthèse de différents styles, le chant, la déclamation, la symphonie réunie dans un équilibre permettant au créateur l'emploi de toutes les ressources de l'art. C'est cet équilibre que je recherche. C'est pour cela que je suis renié tantôt par les wagnéristes, tantôt par les réactionnaires. Je persiste à trouver Proserpine excellente. L'avenir me donnera raison. » Fin de citation. Voilà un précieux document de 1904, pas tant pour la respectable chanteuse Marianne Aiglon que pour son pianiste qui n'est autre que Camille Saint-Saëns lui-même. C'est un des rares enregistrements acoustiques que nous avons de ce pianiste virtuose. Les rouleaux de piano mécanique qu'on a de Camille Saint-Saëns étant moins directement touchants. C'est un extrait de l'opéra Ascanio qu'on entendait là, nouvel opus du duo Saint-Saëns-Gallet. Camille Saint-Saëns et son librettiste fétiche Louis Gallet vont de nouveau puiser dans le passé historique en mettant en scène Ascanio, l'apprenti du grand sculpteur et orfèvre Benvenuto Cellini. Cellini, c'est lui dont la réjouissante autobiographie a inspiré de nombreux artistes comme Hector Berlioz pour son opéra Benvenuto Cellini de 1838. Et cet Ascanio de Saint-Saëns est créé à l'Opéra de Paris en 1890, partition faisant l'admiration du vieux Charles Gounod. La pavane d'Ascanio est d'une absolue beauté de forme et d'instrumentation, un pur chef-d'œuvre digne des plus grands maîtres, écrit Charles Gounod. Malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'enregistrement de la dite pavane, mais cette Fiorentinella du deuxième acte nous permet d'entendre sur France Musique la voix de Madame Régine Crespin. Oh!
Fiorentina.
Viergano a barba grise, chante, chante, moi je ris, sachant les mâbles surprises qui vous attendent au logis. Courez, courez,
L'orchestre de la Suisse romande était dirigé par Alain Lombard dans cet extrait de l'opéra Ascanio de Camille Saint-Saëns. Le personnage de Scozzone, amoureuse de Benvenuto Cellini, et qui sera l'innocente victime de ce drame, était chanté ici par Régine Crespin. Un opéra qui sera descendu en flèche par George Bernard Shaw. Je n'ai pas besoin de trouver des mots pour cette musique. Il n'y a pas une phrase originale depuis le début jusqu'à la fin. Point.
C'est l'été sur France Musique. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
Ascanio sera quand même joué jusqu'en 1921. Ce sera même le tout dernier spectacle auquel assistera Saint-Saëns avant de mourir. Un spectacle dirigé par son admirateur Reynaldo Hahn, tandis que Marcel Proust, jaloux, dit-on, de leur relation, usait ses dernières forces pour finir La recherche du temps perdu. À la mort de Saint-Saëns, il y a un siècle, conformément à sa volonté, la ville de Dieppe avait hérité d'une grande partie de ses objets, partitions, manuscrits. Alors pourquoi Dieppe? Eh bien parce que là étaient ses racines paternelles. Il y a même un village appelé Saint-Saëns, à 20 km de Dieppe. Saint-Saëns sans tréma, sans ce tréma qui a été rajouté par le père de Camille, Jacques-Joseph-Victor Saint-Saëns, mort en 1835, l'année de naissance de Camille. Sa mère étant Françoise Clémence Collin, artiste peintre de talent. Donc, la ville de Dieppe conserve une grande partie du fonds Saint-Saëns et une exposition vous y est proposée jusqu'au 2 janvier prochain. On peut y voir notamment une statue de Pierre-Étienne Campagne, une statue qui a été réalisée pour la création de l'opéra Friné. Alors, ça s'écrit P-H-R-Y-N-E, Friné, créé en 1893. Sur un livret antiquisant de Lucien Auger de la Suze, création de Friné à l'opéra comique. Voilà une partition qui sera du vivant de Saint-Saëns, son plus grand succès après Samson et Dalila. Une partition dont voici un extrait enregistré en 1958 par Madame André Esposito avec le ténor Jean Mollien et l'orchestre lyrique de l'ORTF, dirigé par Tony Aubin. C'est un air dont Saint-Saëns nous retrace ainsi la genèse, composée à Alger, dans le jardin d'essai d'Alger. La soprano Sybille Sanderson fut l'enchanteresse qui divinisa Friné. Partie d'un lieu élevé, ce parc algérois, parc de féerie, descend en pente douce jusqu'à une petite plage discrète, ombragée de dattiers, où la mer vient mourir amoureusement. J'y suis venu naguère écouter son murmure, pour le reproduire dans l'accompagnement de l'air de Friné, un soir j'errais sur le rivage.
Un soir j'errais sur le rivage, mais vous de vivre en ton doux esclavage, près de toi. Tu fais séjour au rythme
Sur France Musique, vous venez d'entendre un extrait de Frinet de Camille Saint-Saëns par André Esposito et Jean Mollien, ainsi que l'orchestre lyrique de l'ORTF dirigé par Tony Aubin. En 1895, en pleine Wagneromanie européenne, Camille Saint-Saëns termine l'opéra Brunhilde d'Ernest Guiraud qui venait de mourir, un opéra qu'il rebaptise Frédégonde pour faire un peu moins teuton. Mais c'est encore dans le haut Moyen-Âge que Saint-Saëns va puiser l'inspiration pour Les Barbares, tragédie lyrique en trois actes sur un livret co-écrit par Victorien Sardou, ce même Victorien Sardou qui venait d'inspirer Tosca à Puccini. Ce n'est pas une collaboration, c'est un combat, dira Victorien Sardou au sujet de son travail avec le coriace Camille Saint-Saëns sur ces Barbares, un opéra qui lui aussi subira les fourches du critique Claude Debussy. Saint-Saëns fait des opéras avec l'âme d'un vieux symphoniste impénitent. Est-ce là que l'avenir viendra chercher les vraies raisons de lui conserver de l'admiration ?
demande rien. Tu parleras toi-même.
Thank you.
Vous venez d'entendre sur France Musique un extrait de l'opéra Les Barbares de Camille Saint-Saëns avec Catherine Hunold chantant la Vestale Floria et Edgaras Monvidas dans le rôle du barbare Marc Omir. L'orchestre symphonique Saint-Étienne-Loire était dirigé en 2014 par Laurent Campellone. Voilà encore un opéra de Saint-Saëns enregistré grâce au soutien de la Fondation Bruzzani. C'est en octobre 1901, au Palais Garnier, que fut donnée la création de cet opéra, Les Barbares. Mais on avait initialement prévu de le présenter au Théâtre Antique d'Orange, en plein air. Et bien 10 ans plus tard, c'est en plein air, aux arènes de Béziers, que Camille Saint-Saëns va diriger son ultime opéra, Déjanir, avec un livret de son fidèle Louis Gallet. Mais entre les deux, Saint-Saëns mettra au monde deux autres partitions lyriques. L'Ancêtre, en 1906, et puis cette singulière Hélène, de 1904. Singulière parce qu'à l'instar de Wagner, jadis son idole, et depuis quelque temps sa bête noire, Saint-Saëns a écrit la musique et le livret de cette Hélène. Il la met en scène aux côtés de Vénus, aux côtés de Pallas Athéna et aux côtés de Paris. Voilà un opéra créé en 1904 au théâtre de Monte Carlo, repris l'année suivante à l'Opéra Comique et en 1919 au Palais Garnier. Rosamund Ealing et Steve Davis Lim chantaient les rôles de Hélène et de Paris dans la conclusion de ce poème lyrique Hélène de Camille Saint-Saëns avec l'orchestre Victoria dirigé par Guillaume Tournière. 17 ans après la mort de Saint-Saëns en 1938, sa statue sera installée au foyer de l'Opéra Garnier pour saluer ses 13 ouvrages lyriques dont 7 sont entrés au répertoire de l'Opéra de Paris et 4 ont même été commandés par l'Opéra. Vous savez tout. Merci à Céline Parfenoff, Martine Moni et José Bernays. Samedi prochain, le carnaval de Monsieur Saint-Saëns sera consacré au thème « Dieu et démons ».
À réécouter sur francemusique.fr.